France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Jean-Jacques Antonov, donc je suis né à Cannes en 1945 et je suis musicien, c'est-à-dire j'ai été violoniste, je continue un petit peu et je suis chef d'orchestre.
Jean-Jacques Cantorop.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous, le musicien aux multiples visages, on en entendait deux, hein, le violoniste et le chef, mais aussi évidemment le chambriste, le pédagogue. De tout cela, on va pouvoir évidemment parler tranquillement, on a tout le temps. Et d'ailleurs, je me demandais comment est-ce que vous regardez ce temps passé à musiquer depuis quelques décennies maintenant, vous, le grand violoniste qui, à un moment, avait troqué l'archet pour la baguette. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peut-être été davantage chef que violoniste? Comment vous sentez ça?
Alors, le temps passe très vite, c'est dramatique. Parce que finalement, je me sens aussi jeune que lorsque j'ai commencé. Donc, je n'ai pas du tout l'impression de ce périple. Peut-être que ces années étaient un peu vides finalement, ou trop pleines. Je ne sais pas comment les définir. Mais c'est vrai que le temps est passé très très rapidement. Et donc, non, je pense être plus violoniste que chef d'orchestre, parce que c'était l'instrument que j'ai choisi. C'était, à vrai dire, j'ai appris par ma sœur qu'au fond, mes parents avaient choisi pour moi. Mais enfin, moi, j'ai toujours cru que j'étais à l'origine. J'avais vu un petit violon dans une vitrine et que j'avais envie du violon. Mais je pense que c'est pas par hasard qu'on est passé devant la vitrine. Voilà, donc, mes premiers souvenirs. Mais c'est vrai que c'est venu après l'écoute d'une retransmission à la radio, et nous étions en voiture, donc c'était une des premières radios en voiture, donc d'un concerto de Mendelssohn, et je me souviens d'avoir été tout à fait fasciné par cette musique, et j'avais envie de rivaliser avec ce que j'avais entendu.
Vous avez dit que cette vie se dessine très très vite en musique, on le sent, hein, tout de suite c'est la musique qui vous cueille, mais si on remonte un petit peu le temps, vous êtes né en 45, Jean-Jacques Cantorov, c'est pas complètement anodin, la guerre qui quand même juste se termine, parents comment l'ont-ils vécu, où l'ont-ils vécu?
Alors mon père était prisonnier de guerre, donc il était dans le stalag de Ziegenheim, et donc il était dans le même camp que Mitterrand. À vrai dire, lui était interprète du camp. Et bon, il avait appris à parler allemand suffisamment bien pour qu'on puisse s'appuyer sur ses compétences. Et puis, donc, il y avait dans ce camp des gens qui ont aussi compté beaucoup dans ma vie, notamment un de ses amis qui dirigeait l'orchestre du camp, qui s'appelait Laurent King et qui a été un de mes professeurs de violon à l'origine. Donc, je vous raconterai ça plus tard. Mais mon père a réussi à s'évader, pas la première fois. La première fois, il a été repris. La seconde fois, et son évasion, je dois dire que si on lit ou on voit plutôt des œuvres comme La Vache et le prisonnier, comme où on s'aperçoit de choses extraordinaires dans les évasions, il a vécu une évasion tout à fait extraordinaire aussi, où il a eu beaucoup de chance et en même temps, il a pris beaucoup de risques. Donc, ma sœur, qui est plus âgée, qui a 9 ans de plus que moi, elle a vécu avec ma mère toute la période de la guerre à Nice. Et elle a vécu, donc, non seulement il y avait toutes les privations, comme pour tout le monde, mais elle ne savait pas qu'elle était d'origine juive. Mes parents ne lui en avaient pas parlé, donc il n'était pas question d'en parler à la maison. Ma mère avait fait, de toute façon, elle l'avait inscrite dans un cours qui s'appelait le cours Moulin, qui était dirigé par les dames Gouvion de Saint-Cyr, et qui ont protégé les Juifs. Grâce à elles et leurs relations, parce que l'évêque de Nice a été aussi pour beaucoup dans cette protection, il s'est avéré que il n'y a pas eu de problème. Cela dit, ma mère était relativement naïve, puisque à un moment, les autorités ont décidé que tous les Juifs devaient se rendre à la police, donc et déclarer leurs origines. Donc c'était une des lois, enfin, qui ont été promulguées, et elle l'a fait. Et elle écrit à mon père, en plus naïvement, dans son camp de prisonniers. Et alors, coup de chance extraordinaire, cette lettre passe sans être lue par la direction du camp. Et mon père était blond aux yeux bleus, grand, il n'avait pas du tout le type juif, donc en fait, il a échappé au déshabillage, il a échappé, personne ne savait qu'il était circoncis, personne ne savait qu'il était juif, et donc c'est une chance extraordinaire. Alors il lui répond en lui disant, écoute, non, ne fais rien de tout cela, et en fait, coup de chance, il y a eu un incendie dans les services de police, et tous les dossiers ont été brûlés, bon, finalement personne n'a su. Et donc sa seconde évasion, il l'a réussi, et il a eu aussi le courage, ce qui est assez extraordinaire, de retourner à Paris parce que sa mère était raflée au Veldiv. Et ma sœur et moi, nous ne savions pas. Nos parents ne nous ont jamais parlé de cet épisode. Donc il est retourné à Paris et il est rentré à Nice. Il n'a pas pu. Donc elle était partie à Drancy, donc il n'a pas pu... parce qu'il avait demandé à un docteur de ses amis de faire un faux certificat pour essayer de la faire sortir du Veldiv, en me disant qu'il était très malade, il fallait donc... il pouvait s'en occuper. Et en rentrant, il a réussi, une pensée, il s'est dit, non, je ne vais pas prendre le train pour Nice directement, je vais passer par la route des Alpes, je vais prendre le petit tortillard qui arrive à la gare du Midi. Et grâce à ça, le jour même où il est arrivé à Nice, les Allemands déshabillaient, les Allemands et les Italiens déshabillaient tous les mâles en gare de Nice, il aurait été pris. Donc, vous voyez, finalement, il a échappé. Et ma sœur m'a raconté d'autres épisodes où, véritablement, bon, il a échappé à la mort de nombreuses fois. Mais c'est un miracle que je sois vivant et que je sois né. Ces épisodes de la guerre, nous ne les avons pas connus, dans le sens où mes parents ne les ont pas racontés. jusqu'au jour où mon neveu, qui a fait son service militaire, c'est un historien tout à fait éminent, pour son service militaire, on l'a mis aux archives et il a découvert le nom de notre grand-mère parmi les déportés du Veldiv. Donc c'est comme ça que nous avons appris un peu l'histoire. Ma mère en a parlé, mon père était déjà décédé, elle a parlé un tout petit peu, mais les souvenirs du camp, même s'il a lié d'énormes amitiés, bon, que ce soit avec les Barsac, avec lui, il y avait beaucoup de gens, donc je pense même que quelque part, mon père a dû faire partie, peut-être pas de résistants, mais du moins dans les milieux du cinéma à Nice, puisqu'il y avait les studios de la Victorine qui étaient là, il y avait certainement quelque chose qui se passait, dont on n'a jamais su les tenants et les aboutissants, mais il y allait souvent, lui qui n'était pas du tout impliqué de façon artistique, sinon qu'il était graveur de formation et qu'il dessinait admirablement, mais je dirais que ce n'était pas vraiment son point d'ancrage ni sa force. Donc c'est très intéressant de voir qu'effectivement il a dû continuer une forme de résistance après son évasion sans que nous le sachions.
Vous étiez donc protégé par vos parents de cette identité juive, c'était pour vous la cacher, vous.
Enfin... On était protégé, oui, complètement. Et ce n'est que j'avais, je pense, à peu près 11 ans, et j'étais au lycée, donc avec un de mes camarades, dont le père était très antisémite, qui avait été un collaborateur pendant la guerre. Chez lui, il y avait d'ailleurs des tas de souvenirs allemands, des casques, des pistolets mitrailleurs. Enfin, il y avait une très très grosse propriété, pas très loin de chez nous. Et nous, on s'entendait très bien. Et son père lui a dit, bon, mais écoute, tu fréquentes un juif. Et lui m'a dit, bon, t'es juif. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je rentre à la maison et je dis à mes parents, j'ai dit, bon, oui, ben, on me dit que je suis juif. Et j'ai vu mon père regarder ma mère. Et dire, je crois qu'on peut lui dire maintenant. Et donc, j'ai attendu 11 ans pour connaître mes origines.
Oui, le milieu des années 50.
Oui, exactement.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Jacques Kantoroff.
Nice a été quand même très éprouvée par la Seconde Guerre. Je veux dire, l'occupation italienne, l'occupation allemande, et puis
absolument.
Jean Médecin aussi.
Bien sûr, et puis en plus de ça, donc il y avait... Gallo en parle très bien, d'ailleurs c'était mon professeur d'histoire au lycée.
Extrême.
Donc c'est assez amusant, et nous avons toujours, j'ai toujours un terrain à Saint-Martin-de-Vésubie, donc vous voyez la relation évidente à l'époque, parce que pour moi c'était, bon, j'avais un professeur de violon qui avait un terrain, de pourquoi pas bâtir un jour un chalet, donc voilà, c'est, nous avions donc un terrain que je possède toujours, et j'ai appris l'histoire bien après. C'était un village qui était rempli de réfugiés d'origine juive, et on leur a fait croire que les Allemands venaient et qu'il fallait passer le col, donc ils ont passé le col de la Madone de la Fenêtre et sont fait cueillir de l'autre côté sur le versant italien. Et il y a eu très peu de réchappés.
Votre père, donc, ne vous a pas raconté ses exploits, parce que j'imagine aussi, quand même, c'est extraordinaire, ces évasions, ce courage. Ça, c'est quelque chose aussi que vous avez découvert après, Jean-Jacques Kantoroff?
J'ai découvert après. Alors, j'ai découvert parce que d'abord, j'ai retrouvé une boussole très artisanale dans une boîte en bois avec une petite vitre et derrière, il y avait l'aiguille aimantée. Et je lui demandais ce que c'était. Alors, il m'a raconté qu'il avait traversé la forêt noire à pied. Et que c'était une boussole qui l'aidait à se diriger. Et il m'a raconté 2-3 épisodes, notamment, il arrive donc pas très loin de la frontière, et il prend le train. Il avait des permis de circuler fabriqués, qui étaient faux, bien sûr. On lui avait fait un costume, parce que dans les camps, on savait, il y avait des tailleurs, il y avait donc, quand les gens s'évadaient, ils avaient de quoi, effectivement, passer inaperçu. Donc, on lui avait fait un costume, et donc, il est dans le train, et il voit arriver quelqu'un qui le regarde, donc il était assis dans un coin du compartiment, la personne était en face, et qui le regarde beaucoup et qui dit rien. Et puis arrive le contrôle de police, donc elle contrôle aussi pour les billets, et donc il présente ses papiers. Bon, ça se passe bien. Et puis tout d'un coup, le type qui est en face lui dit hein, « Tu t'appelles Serge Kantorov ?» Et alors, mon père était blanc comme sa chemise, parce qu'elle ne devait pas être aussi blanche que ça, mais du moins très étonné et très craintif. Et le type lui dit « Écoute, ne t'inquiète pas, si tu veux passer en France ?» Il dit « Oui, ben, écoute, tu descends à Kiel, tu ne passes pas le pont, je t'emmène en France. » Et mon père lui dit, mais comment vous savez tout cela? Il dit, bon, ben, de toute façon, je suis prestidigitateur, donc je suis manipulateur, donc en fait, j'ai vu ton papier, j'ai tout de suite lu, j'ai remémoré les choses, donc ça fait partie de mon métier. Il dit, mais je fais partie du réseau de résistance, je vais t'aider à passer, il l'a aidé à passer. Et mon père m'a dit que le seul endroit où on n'a pas recherché, il a dormi dans les sous-sols de la Gestapo à Strasbourg. Donc, en fait, ça fait partie de choses. Ils avaient une cache là, je ne sais pas comment ils s'étaient débrouillés, mais enfin bon, voilà, ça faisait partie des réseaux de résistants, et qui l'ont aidé à Paris également, pour atteindre Moulins, donc, et passer en zone. Et un des passages qu'il a fait, je ne sais plus si c'est le premier ou le second, l'intuition. Il y avait, à la ligne de démarcation, la possibilité quand même de passer, pour des raisons, je dirais, vraiment locales. Et notamment, lorsqu'il arrive à la ligne de démarcation, il y avait un cortège funéraire. Et la veuve qui était devant, pris d'une inspiration, il va vers elle, il la prend par le bras, et lui dit, écoutez, ne me dénoncez pas, j'essaye de passer la... Et il a passé la ligne de démarcation comme ça. Chose à raconter mais que j'ai connu par petits extraits, donc c'est difficile. Ma sœur en connaît peut-être un peu plus, mais voilà, autrement il n'en parlait pas. Il y avait sinon quand même un document que doit avoir mon neveu sur la vie au camp qui existait, parce que il y avait des caricatures de toutes les personnalités du camp, dont Mitterrand bien sûr, et Laurent King, le fameux chef d'orchestre violoniste qui était dans le camp et qui avait dans son orchestre Gallo Monbrun, l'ancien directeur du conservatoire, Akoka, le fameux clarinettiste pour qui le quatuor pour la fin du temps a été composé. Donc voilà, c'est un univers assez extraordinaire. Et j'ai connu bon, certaines de ces amitiés, dont Akoka, donc le père, celui qui était le clarinettiste créateur, les Barsac, je ne sais pas où ils les avaient rencontrés, mais voilà. Donc à la maison, il y avait aussi des personnalités, et il y avait un pianiste qui s'appelle Uninsky, qui a été son copain d'enfance. Alexandre Uninsky a été un des plus grands pianistes à l'époque, c'était un des rivaux de Horowitz, et qui a enregistré pour Philips énormément, et qui a terminé sa carrière aux États-Unis, et qui fréquentait la maison, et que dès qu'il venait jouer à Nice, il y avait un piano qu'il avait choisi pour ma sœur, était un peu un plié à
l'endroit. Votre sœur a joué du piano?
Ma sœur jouait un peu de piano, voilà, et donc j'ai vécu une enfance entouré quand même de musique, même si mes parents étaient mélomanes, mais ils n'étaient pas du tout musiciens.
Oui, c'est ça. Eux ne jouaient pas d'instruments. Votre père ne faisait pas partie de cet orchestre dans le camp.
Non, pas du tout. Du tout, il n'y avait aucune ramification avec la musique, sinon un amour de la musique. Thank you.
vos parents sont russes, tous les deux, parce que vous avez dit que votre père était interprète. Je me demandais quelle langue. Donc, vous avez dit qu'il avait appris l'allemand rapidement, le français, évidemment.
Oui, mais il parlait yiddish, il y a une composante allemande très importante. Donc, moi, je ne savais pas. Parce que quand il voulait, évidemment, qu'on ne comprenne pas... Il parlait en yiddish et moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait.
Vous ne saviez pas quelle était cette langue?
Non. Et alors, le plus amusant, c'est un souvenir avec ma grand-mère, qui est britannique, parce que, en fait, ma mère est née à Londres et mon père est né à Paris. Ils sont d'origine russe, c'était les premiers enfants nés en Occident. Leurs aînés...
Ils sont nés en quelle année, vos parents, dans les années 20?
Non, ils sont nés, c'était dans les années, c'était 9 et 11. Hein, et les grands-parents ont dû émigrer dans les années 5, entre 5 et 7, je présume. C'était l'époque des pogroms. Donc, effectivement, le tsar avait lâché ses troupes, qui se nourrissaient comme elles pouvaient. Et donc, voilà, c'était la période de Fiddler on the Roof, le violon sur le toit.
Donc, leur langue maternelle à eux deux était le russe?
Alors, je pense qu'ils devaient comprendre, mais ils ne le parlaient pas. Par contre, ils parlaient entre eux plusieurs langues, mais vraisemblablement, c'était plutôt le yiddish. Mais encore une fois, on n'était pas élevé pour le savoir.
Est-ce qu'elle est présente, la Russie, aussi, dans votre éducation, dans les livres ou dans quelque chose comme ça?
Elle est présente, mais pas directement. Elle est présente au travers de personnes qu'on a fréquentées, mais pas directement. Non, il n'y avait pas le côté slave. Les origines, on n'en parlait pas, on était complètement assimilés. Mmh. C'était le mot d'ordre, un petit peu. Donc ça, c'était assez important pour eux. C'est pour ça, d'ailleurs, ils ont choisi... ma sœur s'appelle Monique Angela. Moi, je m'appelle Jean-Jacques Alain. Donc vraiment, on était tout à fait prêt à être assimilé et ne pas parler des origines. C'était important pour mes parents. C'était leur sécurité.
Parents, eux, se rencontrent?
Alors, se rencontrent parce que ma mère avait envie d'avoir un correspondant en France, parce qu'elle apprenait le français à l'école, et donc elle avait envie d'avoir un correspondant. Et il s'est trouvé que les deux familles se connaissaient, il y a même une relation véritablement de famille, qui saute une génération, mais par c'est pas consanguin, rassurez-vous, enfin, ou peut-être, mais non, ça ne l'est pas. C'est simplement par les alliances, et effectivement, il y a un cousinage avec une génération de décalage entre les deux familles. Donc c'est pour ça qu'ils avaient retrouvé en quelque sorte l'adresse de mon père et que ma mère était en relation, et ça s'est terminé par un mariage.
Thank you. C'est sur cette valse du lac des Cygnes de Tchaïkovski dirigée par Mihail Pledniev que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Jean-Jacques Kantorov. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Yves Lehorse, mixage Olivier Dupré, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.